VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 10h à N'Djamena, bonjour à tous. Au Tchad, près de 6 millions d'électeurs ont voté dimanche dans le cadre de la présidentielle. Le président sortant Idriss Déby Itno était face à 12 autres candidats. Les résultats ne sont pas attendus avant 2 semaines, mais le dépouillement a déjà commencé juste après la fermeture des bureaux de vote. Bagassi Koura, notre envoyé spécial, nous appelle de N'Djamena.
Hier soir, le dépouillement a commencé immédiatement après la fermeture des bureaux de vote. Un dépouillement généralement mené sous les arbres ou dans les coins de rue. La plupart des bureaux de vote ayant été installés en plein air, de nombreux bureaux ont fermé 1 ou 2 heures après l'heure de fermeture officielle qui était prévue à 17h, heure locale. Le taux de participation semble être important. De longues files d'attente étaient visibles une bonne partie de la journée devant la plupart des bureaux de vote. Plusieurs incidents ont été signalés dans le bureau de vote 1 carré 24 de N'Djamena. On a dû refuser les nomades et les déplacés par défaut de bulletins supplémentaires. À Boutal-Bagara, un quartier à la périphérie est de la capitale, les choses ont mal tourné. Entre 9h et 10h du matin, il y a eu une rupture de bulletins de vote, ce qui a provoqué la colère des habitants de ce quartier, réputé chef de l'opposition. Au lieu de recevoir des bulletins de vote, donc, c'est plutôt à un déploiement important de forces armées auquel les électeurs de Boutal-Bagar ont eu droit. Le dépouillement s'est déroulé sous haute garde et s'est terminé par des tirs de gaz lacrymogène aux environs de 19h à Boutal-Bagar. N'Djamena Bagassi Koura pour VOA Africa.
Et toujours au Tchad, le docteur Albissati Saleh Al-Azam, qui a été arrêté pour opposition à un 5e mandat du président Idriss Déby Itno, comparaît ce matin devant le parquet de N'Djamena. Il est accusé d'avoir organisé des manifestations illégales par le pouvoir. Au Comores, le dépouillement se poursuit après un vote qui a été marqué par des incidents en juin. L'une des 3 îles du pays, il s'agit de départager les 3 candidats au second tour de la présidentielle. Michel Joseph.
Le dépouillement a débuté dès la fermeture des bureaux de vote. Quelques 300 000 Comoriens étaient appelés aux urnes dans les 3 îles qui constituent l'archipel, à savoir Moéli, Anjouan et la Grande Comore. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swalihi, dit Mahamadou, fait face à l'ex-poutiste Azali Assoumani, qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006, et à Mouigni Baraka, gouverneur de Grande Comore. D'après la Constitution, la présidence tournante revient cette fois à la Grande Comore. Le colonel Assoumani et Mamadou ont enregistré de précieux soutiens, mais le gouverneur Mouigni Baraka, moins connu sur les 2 autres îles, veut croire en ses chances. Sur l'île d'Anjouan, des partisans de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, qui soutient le colonel Assoumani, ont perturbé le vote et ont même cassé des urnes. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les bureaux de vote ont ouvert ce lundi au Darfour, dans l'ouest du Soudan, pour un référendum sur le statut administratif de cette région trouble. Les électeurs doivent décider s'ils veulent conserver la structure actuelle du Darfour, divisée en 5 États, ou de le fusionner en une seule et même région. La première option est soutenue par le président Omar al-Bashir, mais critiquée par les observateurs qui affirment qu'elle renforce encore davantage le contrôle du pouvoir sur cette région d'environ 500 km² dont le sous-sol recèle d'importantes richesses. La consultation est boycottée par les groupes rebelles. Les insurgés soutiennent que les combats ne sont pas propices à l'organisation d'une consultation. Premier secrétaire d'État et plus haut responsable gouvernemental américain a visité le mémorial d'Hiroshima au Japon. John Kerry s'est dit profondément ému aujourd'hui devant la puissance de ce lieu qui, selon lui, rappelle avec force et dureté la nécessité de se débarrasser des armes nucléaires. S'il n'a pas présenté d'excuses formelles des États-Unis pour le premier bombardement atomique de l'histoire, il a plaidé devant la presse pour un monde sans armes nucléaires, comme l'avait fait auparavant le G7 des ministres des Affaires étrangères. Et puis au Yémen, les forces loyalistes et les rebelles chiites se sont engagés à respecter le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche à minuit à l'initiative de l'ONU qui veut organiser des pourparlers de paix à partir du 18 avril. Le médiateur de l'ONU au Yémen, Sheikh Ahmed Ould Ismaël, a salué la cessation des hostilités et a exhorté les belligérants et la communauté internationale à rester déterminés à la soutenir. À tout à l'heure dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.